question pays, la première au plus près des Calédoniens.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Question Pays. Le Covid-19 a-t-il modifié la vision et la gestion de l'entreprise? Nous allons tenter de répondre à cette question durant cette émission. Avec nous ici devant cette boulangerie de Ducos, Xavier Benoît, chef d'entreprise et président de la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, Pierre Twitéala, deuxième secrétaire général adjoint de l'USOINC, et Dominique Lefebvre, vous êtes président de la Commission du développement économique du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Je précise que nous avons invité la direction du travail et de l'emploi, un service du gouvernement qui a donc décliné cette invitation. Bonjour à vous messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Alors dans un premier temps, si vous le voulez bien, nous allons évoquer la période de confinement, les changements intervenus dans l'entreprise à cause du coronavirus. Et ensuite, quels sont les enseignements dont on tire de cette crise et comment se prépare-t-on à faire face à une éventuelle nouvelle menace sanitaire? En clair, y a-t-il un avant et un après coronavirus dans l'entreprise calédonienne? Alors la crise sanitaire a-t-elle changé le comportement des salariés? Première question à vous, Pierre Twitéala. Vous êtes un responsable de l'USOINC et travailler avec Valenc. Comment s'est passé justement le confinement et les changements qui ont dû se faire, les mesures mises en place pour lutter contre la contamination dans l'entreprise?
Écoutez, justement pour la crise que nous venons justement de traverser, effectivement, dans les grandes entreprises, je pense que le message a été bien mis en place, vu parce qu'ils ont les moyens. Je pense notamment aux grosses structures, hein, Valais, KNS et la SLN. Je pense qu'ils étaient déjà préparés. Contrairement aux TPE et plutôt aux TPE et les petites entreprises, ça a été très difficile justement.
Quand vous dites bien préparé, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que les.
Déjà préparés.
Les masques, ils étaient là. Ils étaient bien même avant ce qui était prévu par le gouvernement ou la province. Mais aussi les produits, comment on appelle ça, sur les produits pour laver les mains. Les gels hydroalcooliques, vu les labos qu'on a au sein de ces trois grandes structures. Ça a été fait en interne, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre ou commander. Donc ça, il l'avait déjà sur place pendant la crise Covid-19. Justement pour la crise, quoi.
Là, vous parlez essentiellement dans le secteur minier, puisque c'est votre secteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres secteurs, que minier?
C'est là où il y a eu des difficultés. C'est parce que dans les petites entreprises, le produit hydroalcoolique est très cher. Mais par contre, on a demandé pour qu'il y ait au moins le savon. Ça, je pense qu'au niveau des entreprises, les employeurs ont joué le jeu. Quoique, dans certaines entreprises, on a eu quand même un retour de la part de nos salariés où les savons n'ont pas été mis en place. Ou parfois même les masques. Et c'est là qu'on a dû intervenir, mais c'était au cas par cas. Mais en général, le retour qu'on a eu, nous, de par nos militants sur le terrain, quasiment l'ensemble des employeurs ont joué le jeu.
J'aimerais avoir le sentiment de Xavier Benoît. Vous êtes chef d'entreprise. Comment s'est passé ce confinement? Comment a été relayé par vos services ces mesures des gestes barrières et autres distanciations sociales?
Alors, je crois qu'il faut revenir effectivement à la situation dans laquelle on était en tout début de crise sanitaire en Nouvelle-Calédonie. On ne savait pas du tout où on allait. Et la première question, quand le confinement a été déclenché en Nouvelle-Calédonie, et notamment pour les industriels, c'était de savoir est-ce que je peux continuer mon activité ou est-ce que je ne peux pas continuer mon activité. Et c'était basé sur deux éléments. Est-ce que j'ai le droit? C'est-à-dire qu'est-ce que les décisions, les textes réglementaires et législatifs qui ont été pris par la Calédonie m'autorisent à continuer mon activité? Et la deuxième question que tout le monde devait se poser, c'était est-ce que je suis en mesure de respecter les gestes barrières dans l'entreprise? Donc est-ce que je peux organiser différemment le travail? Et dans une industrie, c'était une question complexe à mettre en œuvre. Et donc le rôle de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, ça a été d'accompagner les industriels pour leur expliquer s'ils pouvaient ou pas, de manière réglementaire, continuer leur activité. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour assurer les gestes barrières et donc les accompagner pour développer ce qu'on a appelé des plans de continuité d'activité. Et ça a été la plus grande complexité. Face à cette complexité, n'oublions pas qu'il y avait une peur qui était importante en Nouvelle-Calédonie, Et cette peur, on l'a vécue dans les entreprises. Bien entendu, on avait des salariés qui étaient inquiets. Et il a fallu gérer cette inquiétude et accompagner les industriels pour gérer cette inquiétude. Donc ça a été un coup de massue important au début de la crise. Le rôle de la Fédération des industries, ça a été d'accompagner les industriels. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a fait en interpatronal. Donc ça a été un plus pour accompagner les entreprises. Et puis après, dans un deuxième temps, c'était la question de savoir comment est-ce que je peux pérenniser mon activité. Est-ce que je vais avoir la capacité, si je n'ai plus de chiffre d'affaires, si j'ai beaucoup moins de chiffre d'affaires, de continuer mon activité? Mais ça a été le deuxième temps.
Dominique Lefebvre, je m'adresse aux chefs d'entreprise, parce que vous l'êtes également. Comment vous avez organisé le travail dans votre entreprise?
Alors nous savions que nous avions le droit de continuer. Donc on s'est organisé le jour même. Notre DRH avec notre service qualité a immédiatement sorti une note de service avec tout ce qui s'accompagne, évidemment, comme le disait Pierre, du gel, les gestes barrières, etc. Et puis nous avons parlé constamment à notre personnel. Je suis intervenu plusieurs fois, une fois tous les deux jours d'ailleurs pendant toute la crise.
Justement, qu'est-ce qu'on dit au personnel qui doivent quand même venir travailler en sachant qu'il y a cette menace de contamination?
Je crois qu'il fallait les rassurer déjà, en disant clairement que s'ils respectaient les gestes barrières, s'ils se lavaient les mains régulièrement, s'ils avaient le minimum de précautions qu'on a de toute façon, puisqu'on travaille dans l'agroalimentaire, automatiquement on a quand même des gestes de précaution. Et donc s'ils respectaient bien ça, il n'y avait pas de souci, que ça allait très bien se passer. Et puis nous donnions aussi les informations que nous avions du gouvernement, à savoir le nombre de contaminations, etc. Donc on savait très bien qu'il n'y avait que 18 cas, qui étaient isolés, etc. Donc nous avons mis tous ces gestes-là bien en place chez nous. Et le personnel, on a bien vu que la première semaine, ils étaient assez tendus, hein, c'est vrai, mais à partir de la deuxième semaine et de la troisième semaine, on les a vus se détendre au fur et à mesure et retourner travailler tranquillement. Je tiens juste à signaler quand même que chez nous, c'est tout à fait un fait exceptionnel. Pendant cette période, on n'a pas eu un arrêt de travail. Tout le monde a été complètement à son poste de travail. Et c'est assez unique dans l'histoire de la société. Vraiment, tout le monde a pris la grandeur de cette crise-là en main. Et tout le monde s'est vraiment...
C'est comme ça que vous l'avez perçu, que finalement, le message qui a été transmis a été bien perçu par l'ensemble des salariés?
Oui, absolument. Le message a vraiment été très, très bien transmis de la part de mes équipes dirigeantes. Et donc vraiment tout le personnel a respecté ce message et tous on a surmonté nous la crise au sein de l'entreprise d'une manière assez formidable, quoi.
Pierre Touy-Théala, secrétaire général adjoint de l'USWEC, quelles sont les craintes qui ont été formulées par ces salariés justement?
Écoutez, c'est comme Dominique venait de le rappeler, les salariés ils avaient la vente au boule d'aller travailler, quoi. Ils avaient peur. Par contre, en tant que représentant au niveau des salariés, c'est ce qu'on a rappelé aussi quand même à nos salariés, c'est si toutefois les mesures de sécurité ne sont pas mises en place, oui, ok, on va interpeller les directions. Et par contre, ce qu'on a demandé, en tous les cas, l'USWEC, c'était le maintien des salaires des salariés, mais plutôt les laisser à la maison, mais pas de sanctions.
À ce niveau-là, vous avez été entendu?
Quasiment, l'ensemble des directions nous ont entendu. Le message qui a été fait passer par l'USWEC, hein, pendant la crise, hein, c'était qu'on ne souhaitait pas avoir des sanctions pour la plupart des salariés qui n'ont pas pu se rendre au travail par peur de la crise. C'est ce qu'on a fait passer comme message. Et par contre, pour ceux qui se sont rendus au travail, on leur a demandé si les gestes barrières sont respectés, si on avait les gants, on n'avait pas plutôt le masque et aussi les gels. Il n'y avait pas de risque d'avoir le Covid-19. Ça, les salariés, on n'a pas arrêté de les rappeler, les répéter auprès de nos représentants dans les entreprises.
Xavier et Benoît, comment on organise le travail, les conditions de travail dans votre entreprise?
Alors,
durant cette période?
C'est compliqué. Il ne faut pas se tromper. Dans une industrie, c'est encore plus compliqué. Je pense que dans le BTP aussi, ça a été très compliqué. Donc, je pense qu'il faut identifier d'abord quelles sont les attentes de ses clients. Donc, c'est la première nécessité. De quoi mes clients ont besoin? Et en fonction de ce dont mes clients ont besoin, comment est-ce que je peux m'organiser? Donc effectivement, il faut avoir en tête systématiquement les gestes barrières, la distanciation, laisser le temps pour que les gens puissent se laver les mains, mettre en place le gel hydroalcoolique ou les savons nécessaires. Et donc, il faut admettre qu'on aura une productivité qui sera moindre que ce que l'on a. Je pense qu'après, il fallait qu'on identifie, et pour l'organisation du travail, c'était important, les gens qui avaient peur, et donc admettre que les gens qui avaient peur, ils pouvaient rester chez eux. Les gens qui étaient des populations à risque ou qui habitaient dans des populations à risque, et admettre que ces gens-là ne pouvaient pas venir travailler. Et finalement, de manière très pratique, une fois que vous avez décliné ces différents éléments, et vous avez identifié ce dont vos clients ont besoin, vous voyez ce que vous pouvez avoir comme équipe de présente au travail. Et à ce moment-là, vous évaluez la capacité de production que vous avez, ou pour une entreprise de service, la capacité de service que vous avez. Et à ce moment-là, vous produisez en fonction de ça. Mais ça veut dire que ce soit dans le BTP ou dans les industries, effectivement, on a été à des taux d'activité plus proches de 50% d'une activité normale que de 100%.
Je vous adresse à vous trois. Quelle a été la principale difficulté que vous avez pu rencontrer durant cette période ? Dominique Lefebvre ?
Pour nous, c'était les livraisons, évidemment, hein, mais encore une fois, on avait mis tout en place. Nos livreurs avaient des gants, avaient des masques, se lavaient régulièrement les mains après, avaient du gel hydroalcoolique dans les camions de livraison. Mais c'est vrai que quand on arrivait chez nos clients, il y avait des clients qui étaient pas réceptifs du tout à ça et qui avaient peur de se faire livrer et tout. Donc c'était une complication pour nous. Après, juste ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est au niveau du télétravail. En revanche, on a mis la moitié de l'équipe administrative en télétravail. Ça s'est très bien passé. On avait la chance d'être organisé puisque nous avions des ordinateurs portables. Donc chacun a pris son ordinateur portable et est parti chez lui travailler. Donc ça s'est très bien passé. Hein. Des bureaux comme la comptabilité où normalement ils sont trois et il n'y avait plus qu'une seule personne qui travaillait. Donc elle était isolée de fait et les deux autres travaillaient en télétravail de chez eux. Les deux autres personnes en télétravail de chez elles. Et donc là, on a mis tout ce qu'on devait mettre en place pour que le travail des télétravails soit bien fait.
Vous parliez du télétravail. Pierre Tuitéala, ce sont les salariés qui ont justement émis le souhait d'avoir ce mode de fonctionnement ou c'est le chef d'entreprise qui a pris cette initiative, en sachant que le gouvernement et le Haut Commissariat ont appelé les entreprises à l'époque à privilégier justement le télétravail.
Écoutez, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a certaines entreprises de la place qui n'ont pas entendu qu'il y ait un texte sur le... Même si aujourd'hui, le texte, il est entre les mains...
On n'a pas encore de texte. On n'est pas encore réglementé.
Pour l'instant, je pense qu'ils sont en discussion. Par contre, il y a certaines entreprises qui n'ont pas attendu d'avoir un texte de loi en Nouvelle-Calédonie pour le télétravail. D'ailleurs, on le voit dans certaines entreprises. Il y a des accords d'entreprise, notamment chez Valais. Et d'ailleurs, on est en train de préparer aussi pour KNS. Mais le télétravail, ça a bien fonctionné. La preuve, les salariés ont été même plus productifs lorsqu'ils étaient en télétravail que quand ils sont à l'entreprise. Par contre, les difficultés qu'on rencontre aussi avec le télétravail, c'est quand il y a eu les réunions, quand on a des réunions par service, très souvent, la visioconférence ne fonctionne pas très bien. C'est ça les difficultés qu'on a rencontrées en tous les cas. Et puis les déplacements qu'on avait aussi... pour se déplacer, d'aller du travail, de la maison au travail. Quoi. Ça, beaucoup de salariés ont rencontré ces problèmes-là.
Xavier Benoît, le télétravail aussi a été mis en place dans votre entreprise, en tout cas les entreprises de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie.
Dans l'entreprise que je dirige, on l'a fait, effectivement. Et puis on a plus de la moitié des entreprises qui relèvent de l'industrie en Calédonie qui ont opté pour des solutions en télétravail. Avec la difficulté, c'est que... sur les postes de production, on ne peut pas faire de télétravail. Donc effectivement, ça a relevé surtout sur des fonctions de soutien, que ce soit en gestion des ressources humaines, en comptabilité, en achat, etc. Mais donc effectivement, 50% des entreprises du secteur de l'industrie ont eu recours au télétravail pendant cette période. Après, juste quand même pour l'anecdote, vous nous dites que le gouvernement et le Haussaria ont appelé au télétravail, mais 3 mois après la fin du confinement généralisé, on n'a toujours pas de texte sur le sujet.
C'est ce qu'on regrette.
C'est en préparation, je pense, puisque le gouvernement à ce sujet, lorsqu'il a été sollicité, m'a répondu qu'il y avait un sondage qui était fait auprès des établissements publics concernant ce mode de fonctionnement. Le télétravail avec le CESE qui s'est penché sur la question, c'était le 12 juin dernier, Dominique Lefebvre, et vous êtes président de la commission de développement économique, et donc un certain nombre d'auditions ont été faites. Vous avez auditionné des acteurs économiques, dites-nous.
Oui, en fait, ça a été un peu spécial parce que la commission, c'est une autosaisine que le président du CESE nous avait demandé suite aux réunions qu'il a eues avec le haut commissaire, le président du gouvernement et le président du Congrès. Et il est revenu vers nous en disant bon, c'est bien qu'on fasse une autosaisine sur le télétravail et que nous, on avance le travail. Chose qu'on a faite avec une particularité, c'est que notre chargé d'études était en confinement en Nouvelle-Zélande, donc on a expérimenté nous-mêmes le télétravail à travers Skype et à travers d'autres moyens de communication. Et ben, ça s'est très bien passé. Puis on a rédigé pas mal comme ça. Et les entreprises qu'on a auditionnées, on a auditionné l'OPT. L'OPT qui était déjà, avant la crise, en marche à blanc du télétravail. Oui. Donc, en fait, eux, ça s'est accéléré un petit peu, mais ils étaient déjà dans une démarche.
Uniquement parfaite. Dans les établissements publics ou dans le privé également ?
Alors, dans le privé, on a auditionné, on a demandé aux trois organisations patronales de nous envoyer, comme on a l'habitude de faire, des écrits, hein, parce que c'était difficile de les recevoir, en leur posant tout un questionnaire. Ils nous ont répondu. En fait, pour vous donner quelques chiffres, 30% des entreprises étaient en télétravail et au sein de ces entreprises, c'était environ 70% des gens qui étaient en télétravail.
Alors, quelles sont les modalités pour la mise en place du télétravail ? Ça ne se fait pas n'importe comment non plus.
Alors, c'est pour ça qu'on attend impatiemment avec un texte,
oui,
hein, évidemment.
Un texte, alors,
ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il faut donner aux salariés chez lui la capacité de bien travailler comme s'il était au bureau. Donc, ça veut dire qu'il a un ordinateur chez lui, on essaie d'avoir un endroit spécial quand il ne fait pas ça assis sur un coin de la table de la cuisine, hein, évidemment. Donc, il a un ordinateur, on lui met une connexion Internet à disposition. Donc, on encadre tout ça bien pour qu'il soit comme à son bureau. Évidemment, ça demande aussi un peu de mise de fonds de la part de l'employeur, évidemment, puisque pour une, il faut lui payer à minima la connexion Internet. Et il faut lui mettre à disposition aussi l'ordinateur.
Mais est-ce qu'il peut être mis en place sans l'accord du salarié ?
Non, c'est toujours actuellement. Nous n'avons pas de texte actuellement, donc c'est clair que c'est une négociation entre le salarié et l'employeur, et évidemment ou les organisations syndicales quand il y en a dans les entreprises. Mais ça ne se fait qu'ensemble. Hein, c'est pas l'employeur qui prend la décision tout seul, quoi. Alors pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Pierre aussi, la recommandation qu'on a émise, c'est qu'il y ait un maximum de 2 jours de travail en télétravail par semaine, de manière à ne pas isoler non plus le salarié, ne pas l'éloigner du lien social qu'il a au sein de l'entreprise. Et on a même été plus loin. Vous savez qu'à un moment donné, on pensait que ça apporterait du travail aussi pour les handicapés. Mais on s'est aperçu qu'en fait, on les éloignerait encore plus de ce lien social qu'ils ont en les isolant comme ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait un texte et qu'il faut vraiment réfléchir à toute la stratégie à mettre en place pour ne pas faire des cas sociaux avec ce télétravail.
Alors, en sachant qu'un salarié qui est en télétravail a les mêmes devoirs et obligations qu'un salarié qui travaille dans l'entreprise. Pierre Touitéala, secrétaire général adjoint de Luçon-Rec, quels sont les retours que vous avez pu avoir des salariés qui ont été mis en télétravail, qui ont effectué un télétravail ?
On a eu que des retours positifs en tous les cas, hein, de ce que j'ai pris connaissance. En tous les cas, si j'ai eu l'occasion de faire le tour au niveau des entreprises où on est représenté, en tous les cas, le SAC Nickel. Il y a eu un retour positif. Les salariés, même, ça a été même reconnu par leurs responsables de service. Hein, que quand les salariés étaient en télétravail pendant la crise, ils avaient des heures de réunion en visioconférence avec le responsable. Ils avaient des temps déterminés dans la journée qui a été prise. Parce que pendant le confinement, les salariés ont été au télétravail à 100%. Quoi. C'était à 100% à la maison. Ça, on a émis pour certaines entreprises 200 salariés à la maison. Surtout, ce n'est pas les salariés qui sont postés. Par contre, ce sont les salariés plutôt dans les services supports. comme l'a rappelé Xavier tout à l'heure, c'est les ressources humaines, c'est les services achats, c'est les services juridiques, c'est tous ces services-là qu'on a mis tout en œuvre pour qu'ils puissent avoir justement l'Internet, les portables qui vont avec, et afin aussi de faire des visioconférences avec le responsable des services. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu.
Merci, monsieur Twitella. Alors, le télétravail, c'était une des solutions pour répondre à la crise sanitaire. Est-ce que je m'adresse aux deux chefs d'entreprise? Est-ce que, à votre niveau, vous avez-vous envisagé d'autres solutions pour continuer à poursuivre votre activité? Xavier Benoît?
Oui, parce que pour une entreprise industrielle, le télétravail, ça représentait une part minime, effectivement, des capacités d'organisation. Donc, il a fallu, effectivement, organiser des cars. Il a fallu, effectivement, beaucoup discuter. Je pense qu'un des enseignements de cette crise sanitaire, c'est la nécessité d'une forte communication avec les salariés, avec les clients, avec les fournisseurs. Donc, l'organisation du travail, nous, ça a été un travail... Enfin, on avait une cellule de crise. Et quotidiennement, le premier sujet qu'on abordait, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser pour la semaine à venir. Et donc, il a fallu effectivement développer d'autres solutions. Donc, nous, on a signé dans l'entreprise...
Comme par exemple
un accord d'entreprise, effectivement, pour savoir comment est-ce qu'on allait décompter les congés. C'est-à-dire qu'on a décompté les congés différemment de ce qu'on faisait normalement. Il a fallu aussi réorganiser les postes de travail. C'est-à-dire qu'effectivement... là où on produisait des grandes longueurs ou là où il faut trois personnes, finalement on mettait que deux personnes pour pouvoir respecter les distanciations. Donc il a fallu admettre qu'on aurait une productivité moindre dans ce que l'on faisait. Donc organisation des postes de travail, signature d'accords d'entreprise, négociation avec les salariés, ça a été d'autres solutions qu'il a fallu développer pendant cette crise sanitaire. Et on a des enseignements après cette crise qui sont importants. D'abord, le télétravail, ça pas été que la panacée, hein. Tout le monde n'a pas bondi de joie avec le télétravail. Ça génère quand même des difficultés. On a encore des difficultés de connexion, hein. Donc il y avait des gens qui ne pouvaient pas être en télétravail s'il n'y avait pas de bonne connexion chez eux. C'est compliqué d'organiser du travail collaboratif quand on est en télétravail. Il y a un éloignement de la communauté. On avait des salariés qui nous demandaient à revenir travailler parce qu'ils disaient « je ne peux pas passer des semaines chez moi en étant seul », comme les gens qui étaient seuls chez eux. Donc effectivement, il y a des enseignements importants et je pense que l'organisation du travail, une nouvelle organisation du travail, c'est un des enseignements de cette crise sanitaire.
Dominique Lefebvre, d'autres solutions pour poursuivre l'activité en temps de confinement ?
Alors déjà, il faut dire que c'était vraiment très spécial cette période de crise. Clairement, les enfants n'allant pas à l'école, les parents restaient chez eux, mais devaient aussi s'occuper des enfants. Donc nous, les retours que nous avons eus, c'est que en s'organisant très bien, ils n'étaient qu'à 70% d'une capacité normale de travail. Hein, puisque même un couple, il faut s'en occuper le matin et l'après-midi, il faut s'occuper des enfants. Donc le résultat, c'est que chacun son tour travaillait pour son job. Donc ils ont estimé qu'ils étaient à 70% de leur capacité. Donc ça, c'est vraiment très important quand même, parce que c'était quand même très spécial. Après, dans l'organisation du télétravail, je pense qu'on va changer. Il y a eu un, comme vous le disiez dans le titre, hein, il y a eu un avant-Covid et il y aura un après-Covid. Aujourd'hui, les entreprises, la plupart réfléchissent à d'autres méthodologies de travail maintenant. On demande aussi à nos syndicats de réfléchir avec nous. Hein, c'est une réflexion globale au sein de
l'entreprise. La deuxième partie d'émission, elle évoquera justement les enseignements tirés de cette crise et qu'est-ce qui est, et la réflexion qui est menée. Pierre Touy-Théala, par rapport à toutes ces solutions qui ont été envisagées par les entreprises, comment ont-elles été perçues, acceptées par les salariés dans les entreprises?
C'était difficile déjà, premièrement, d'accepter parce que déjà, premièrement, on a la crise économique déjà au niveau du pays, mais ça n'a fait qu'amplifier justement avec la crise qui est arrivée entre-temps, c'est-à-dire la crise sanitaire. Donc les salariés ont dû perdre des salaires aussi, on le voit aujourd'hui, hein, des entreprises sont fermées encore aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui où on est là en ce moment, on a encore des agences de voyage qui sont fermées depuis le mois de mars. Donc ces salariés-là aujourd'hui, ils sont sur le carreau. Donc on ne peut pas dire que ça a été bienvenu, au contraire, les salariés le prennent mal et ont du mal à remonter la pente parce qu'ils ont eu des pertes de salaire pendant ces quatre semaines de confinement. Quoi.
Alors on disait les chefs d'entreprise ont tenu à rassurer les salariés. Comment une organisation syndicale comme la vôtre, la première du territoire, vous rassurez les salariés?
Nous, ce qu'on a demandé aux salariés, c'était quand ils étaient dans des secteurs qu'il fallait aller au travail, que, je pense notamment dans le commerce, comme pour dans le secteur de la mine, hein, le secteur de la mine et la métallurgie, ils n'étaient pas, impactés sur le confinement. C'est ce que nous, on disait en tous les cas aux salariés qui ne sont pas impactés sur le confinement, c'était de se rendre au travail, sinon ils vont perdre en salaire. Et si toutefois, ils n'avaient pas de congé en plus, ils se terminaient en congé sans solde. Donc il dit congé sans solde, ben, pas de salaire à la fin du mois. Et il y a des choses à payer, il y a des traites à payer, il faut nourrir les enfants, il faut habiller les enfants, il faut se nourrir. Quoi. Donc on faisait passer le message à nos salariés, en tout cas à nos adhérents, qui très souvent ne voulaient profiter de la crise pour ne pas aller au travail. Ça, on a fait passer le message. Il faut se rendre au travail. Sinon, tu perds en salaire. Oui, ça a été bien compris.
Dans l'ensemble,
ça a été bien compris. On a toujours des salariés qui vont profiter de la crise pour ne pas se rendre au travail. Mais après, quand tu ne vas pas au travail, ben, tu n'es pas payé. Donc ça, c'est très difficile après d'expliquer ça aux salariés aussi.
Alors, avant d'en venir aux enseignements, j'aimerais qu'on se pose un peu sur les données, des chiffres qui ont été collectés en avril, la deuxième quinzaine d'avril. Une étude a été faite auprès des entreprises dans l'ensemble du territoire. Quel a été le retour par rapport à l'impact du Covid-19 sur l'activité économique des entreprises, Xavier Benoît?
Alors, si on prend vraiment la période... J'exclus les entreprises qui relèvent le secteur du tourisme. Elles, c'est assez simple. On est à 0%, zéro chiffre d'affaires. Donc, on perd 100% de chiffre d'affaires. Pour les autres entreprises, on s'aperçoit qu'on a 50% des entreprises qui ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires pendant cette période de confinement. Donc, l'impact, il est fort. Même des entreprises qui pouvaient continuer à fonctionner, on arrive in fine sur une moyenne où 50% des entreprises ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires. La question qui se pose maintenant, et c'est l'objet des études qui sont menées actuellement, c'est est-ce qu'on retrouve ce chiffre d'affaires? Et on le sait depuis longtemps, mais on l'oublie trop souvent. Un chiffre d'affaires perdu, ce n'est pas un chiffre d'affaires qu'on retrouve. Et aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises canadiennes qui peuvent poursuivre leur activité, je reviens sur le tourisme parce que je pense que ça aura un impact sur le reste des secteurs d'activité, mais l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'arriver à redémarrer et à revenir à 100% de leur capacité, de leur chiffre d'affaires avant crise. Pierre l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est un des enseignements, cette crise sanitaire Covid-19, ça a été un accélérateur de phénomènes existants en Calédonie, et notamment un accélérateur de crise. On avait déjà des secteurs qui subissaient un ralentissement d'activité fort, et on voit qu'on a un accélérateur de crise pour certains secteurs. Heureusement, il y a quelques secteurs qui redémarrent plutôt bien. Et on a vu ça dans le jardinage particulièrement actif ce week-end sur Nouméa. Mais la question, c'est comment on fait. Et donc, la question derrière, et ce que demandent dans ces études qui sont menées, ce que demandent les chefs d'entreprise, c'est qu'on travaille sur les outils qui vont être mis en place pour permettre la reprise d'activité, pour permettre de revenir à un niveau d'activité tel qu'on le connaissait avant cette crise sanitaire. Et dans les outils, effectivement, qui sont demandés, principalement, ça tourne autour de l'organisation du travail. Bon, et j'espère qu'on ne mettra pas plus de 3 mois pour ressortir un texte sur le travail, le télétravail en Calédonie. Il y a des questions sur l'accompagnement bancaire des entreprises. C'est les deux principales questions qui sont posées. Et puis, tout à l'heure, Dominique Lefebvre en a parlé, mais on a un questionnement, et les chefs d'entreprise ont un questionnement qui est important, sur la logistique. On a toujours un gros problème d'approvisionnement aérien avec la Calédonie, et on a aussi parfois des problèmes sur les approvisionnements maritimes. Et la question de la logistique, c'est une question qui va nous toucher d'ici un mois ou deux, puisque c'est à partir de ce moment-là que les stocks de beaucoup d'entreprises seront arrivés à la fin de leur capacité et qu'on aura du mal à les renouveler.
Alors, Dominique Lefebvre, président de la commission du développement économique, vous avez eu connaissance de ces données, comment vous les avez analysées et dans les recommandations justement que vous avez pu faire concernant le texte sur le télétravail?
Oui, alors on a émis plusieurs recommandations sur ce futur texte qu'on espère voir. Bon, il y a quand même déjà un texte qui est sorti en 2012, hein, c'est la loi Warsmann qui est en métropole. Donc il y a déjà une bonne, je dirais une bonne assise sur ce texte. Et puis il nous suffit de l'adapter à la Calédonie. Oui, dans les recommandations, évidemment, on avait toutes ces données. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on recommande aussi une formation aussi des managers, de nos managers, parce que manager quelqu'un en télétravail, c'est complètement différent de quelqu'un qui va être à côté de vous, hein, dans le bureau à côté. Donc il faut vraiment une formation là-dessus. Voilà, le télétravail aussi au féminin. Il faut que les femmes qui restent en télétravail fassent la part entre la mission professionnelle et la mission privée, à savoir qu'il faut vraiment réserver des parts à chaque fois dans la journée. Donc ça aussi, ça s'organise. Hein,
ça se contrôle. Comment ça se passe?
Ça se contrôlera difficilement, mais il faut pas non plus que le télétravail devienne du travail toute la journée, toute la nuit. Et il faut que les faut que ce soit encadré, c'est clair. Hein, c'est bien beau de télétravailler jusqu'à minuit, mais il faut quand même rester avoir une vie privée. Il faut avoir le droit à la déconnexion, en fait. Ça en fait partie. Après, dans les recommandations qu'on a formulées aussi, c'était sur l'éloignement et la fracture numérique. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui sont dans des tribus éloignées qui n'ont pas accès à Internet, donc ça c'est compliqué pour eux. C'est aussi compliqué pour ceux qui vivent dans des squats, hein, qui n'ont pas tout accès à tout. Donc il faut vraiment modeler tout ça à un moment donné pour qu'on puisse
adapter
et arriver à un télétravail serein.
Alors je regarde l'heure, on va aborder la deuxième partie de l'émission sur les enseignements dont on peut tirer de cette situation de crise sanitaire. Je m'adresse à vous, Xavier Benoît. Quels sont, on a déjà abordé, hein, les enseignements à tirer de cette crise. Ce qui a été mis en place, les solutions que vous avez pu envisager, est-ce qu'elles peuvent être pérennisées?
Oui. Il y en a qui doivent être pérennisées.
Lesquelles, par exemple ?
On a identifié qu'il fallait qu'on ait une capacité de résilience qui soit importante dans nos entreprises pour pouvoir faire face à des crises de ce type-là. Donc en organisation du travail, il y a des choses à changer. Alors il y a des choses dont on a parlé, hein, télétravail, changement des horaires, capacité à adapter le travail en fonction des besoins des salariés et des clients et des fournisseurs. Pour faire quand même écho à quelque chose que beaucoup d'entreprises ont vécu et qui n'est pas consensus aujourd'hui au niveau du paritarisme, mais je pense que sur l'organisation du dialogue social dans l'entreprise, il y a des choses à changer. Hein. Nous, on a vécu dans plusieurs entreprises le fait de réunir tous les élus du personnel en même temps pour échanger, communiquer, trouver des solutions. Et moi, je reviens sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a une parcellisation des responsabilités des élus du personnel et c'est compliqué à gérer, notamment dans des structures moyennes en Calédonie. Donc ça, c'est tout ce qui est organisation du travail. Je pense que ça, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet dont je viens de parler, hein, la logistique. On voit qu'on a des grosses faiblesses en logistique en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement à nos liaisons aériennes, à nos liaisons maritimes. C'est un enjeu majeur, hein, pour ne pas isoler la Calédonie du reste du monde. Et puis sur tout ce qui est financement des entreprises, on a des solutions à développer. Hein. On sait depuis longtemps que les entreprises calédoniennes ont des fonds propres, donc qui sont faibles. Donc, et toutes les entreprises qui ont eu des problèmes de trésorerie, donc des problèmes de fonds propres, ce sont les premières à mourir aujourd'hui. C'est celle qu'on tient à bout de bras aujourd'hui avec les outils qui ont été développés en Nouvelle-Calédonie pour accompagner les entreprises. Mais la question de la trésorerie, du financement des entreprises est une question majeure qu'il va falloir qu'on développe et qu'on pérennise. Puisqu'effectivement, et on en reparlera peut-être, hein, aujourd'hui, si on devait reconfiner en Calédonie, ça serait catastrophique pour le monde économique parce qu'on n'aurait pas la capacité de résilience.
Justement, Pierre Touetéala, votre organisation a mené une réflexion sur les enseignements en tirés de cette crise et comment faire, on l'évoquait à l'instant avec Xavier Benoît, c'est la question qui a été posée, si une nouvelle crise sanitaire était annoncée en Calédonie.
Écoutez, on a évoqué lors de notre point de presse du 10 juin, où on interpelle les organisations syndicales déjà du pays, mais aussi les organisations patronales, de commencer à réfléchir. d'un fonds de garantie, quoi. Comment on peut si toutefois on retrouve une crise comme celle qu'on vient de traverser là, mais associer aussi nos dirigeants de ce pays, je parle notamment du gouvernement. Donc à réfléchir autour de la table, je pense que c'est au niveau du Conseil de dialogue social où on est tous représentés et il va falloir réfléchir sur un fonds de garantie pour pouvoir subvenir justement si demain on est amené à revivre ce qu'on a vécu il y a 2 mois. Quoi. Ça c'est une réflexion qu'on a apportée un peu au niveau de l'U5.
Dominique Lefebvre, sur les enseignements en tirés, les solutions apportées en cas de nouvelle crise sanitaire.
Alors déjà pour ce qui est le cadre juridique, plutôt que d'attendre, moi je suggère de faire un accord interprofessionnel entre nous, partenaires sociaux, au sein du Conseil du dialogue social. Comme ça, on est sûr que ça va avancer très rapidement. Et puis, on peut s'en servir. Et là, la loi n'a plus qu'à se servir de base à partir de cet accord interprofessionnel. On est habitué à faire ça. Hein. Les grandes lois qui sont sorties dans le domaine social récemment ont toutes été faites par voie d'accord interprofessionnel entre partenaires sociaux. Après, les enseignements à tirer de ça, c'est sûr que si on a une deuxième crise, on n'est pas du tout prêt à l'affronter.
Et comment justement prévenir et se préparer, peut-être mettre en place un plan d'action, une procédure? Je vous pose la question à vous trois messieurs, puisque la réflexion a été menée chacun à votre niveau, au niveau des organisations syndicales et patronales.
La question, effectivement, qu'il faut qu'on se pose et à laquelle il faut apporter une solution, c'est s'il y avait un risque de déploiement du virus ou d'un autre virus en Calédonie, comment est-ce qu'on peut faire sans confiner ? Effectivement, au niveau des professionnels de santé, il y a eu des propositions, hein, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut être en capacité de mettre en place des masques en Calédonie. Il faut être en capacité de respecter les distanciations sociales en Nouvelle-Calédonie. Et on a eu de grosses difficultés à faire respecter les distanciations sociales dans le transport. Hein, et ça a été un enjeu majeur. Et donc, le plan d'action à mettre en place aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à faire respecter des distanciations sociales en Nouvelle-Calédonie sans confiner tout le monde chez soi et sans fermer la Calédonie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est plus politique, et je ne m'aventurerai pas dessus, c'est la question des frontières de la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce qu'on gère les frontières de la Nouvelle-Calédonie et comment est-ce qu'on gère les flux entrants et sortants pendant une crise de ce type-là? Et on a eu un début de débat sur la question, hein, notamment la question du rapatriement en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il faudrait qu'on valide un mode d'action sur les rapatriements. C'est compliqué, hein, parce que c'est des questions humaines à chaque fois, hein, c'est des histoires de femmes et d'hommes. Mais effectivement, la chance de la Calédonie, il faut qu'elle sache en tirer l'enseignement, c'est d'avoir été épargnée au niveau sanitaire. Et donc, il faut qu'on sache en tirer les enseignements et que sur cette question des frontières, on arrive à tirer l'enseignement et à prendre des mesures.
Est-ce que cette réflexion est menée aussi au niveau des pouvoirs publics, en tout cas des autorités ?
Ce que nous on souhaite, c'est parler avec tous les pouvoirs publics et particulièrement la DAS qui doit être moteur là-dedans, mais qui en même temps doit écouter les entreprises. Hein. J'ai un peu sursauté la semaine dernière quand on les a auditionnés et qui disait qu'il était tout seul à décider et qu'il n'avait pas rencontré d'entreprise. Je vous cite un exemple très précis. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de faire venir des techniciens d'Europe pour régler des machines, pour travailler tout simplement, mettre des machines en place, etc. Aujourd'hui, les gens ils nous disent on ne viendra pas s'il y a 14 jours de confinement pour une mission de 3 jours. Moi, je ne viens pas. C'est logique, hein, faut se mettre à la place de cet entrepreneur en métropole. Et donc, nous, on veut que la DAS nous trouve des méthodologies. Hein. Évidemment, nous, on n'est pas médecins, ce n'est pas nous qui allons les faire, mais qu'elle nous trouve une méthodologie de qu'on puisse travailler sereinement, parce qu'on ne pourra pas arrêter. Quoi. Moi, je sais que j'ai demandé pour des dérogations auprès de la DIMINC pour mes machines, parce que normalement, elles devaient être révisées là, et puis, ma foi, elles ne sont pas révisées. Quoi. Donc, j'ai une dérogation, mais comment on fait après, hein? C'est un point qui est important. Il faut que les services du gouvernement construisent avec les entreprises demain ce qui va se passer.
Assez rapidement, puisqu'on sait que partout un peu dans le monde, là, on a de nouveaux cas de Covid-19. Pierre Tuitéala, quelle serait la solution ou la proposition de votre syndicat pour cette réflexion qui doit être menée?
remarqué, là, il y a plein
de sur l'après Covid-19 et comment on se prépare à une nouvelle crise.
Il y a plein de propositions. J'entends les camarades du patronat qui prônent beaucoup de propositions. Maintenant, c'est pas le tout de juste de proposer. Maintenant, il faut mettre en action. Donc, quand on dit on met en action, c'est qu'on se met tout de suite autour de la table. On l'a vécu. On a constaté la crise, comment elle a été vécue pendant les 4 semaines. Maintenant, il y a plein de propositions. J'entends Dominique et Xavier qui apportent pas mal de propositions. Maintenant, ce n'est pas le tout de le dire. Maintenant, il va falloir se mettre autour de la table.
Le gouvernement a coordonné toute cette action, toute cette réflexion. Il y a une réunion
bien sûr,
qui est prévue
prochainement. Il faudrait que ce soit... Oui, ça c'est jeudi. Ça c'est sur la fiscalité qui n'a rien à voir avec le Covid-19. Mais il est important aujourd'hui que le gouvernement mette en place un groupe de travail pour qu'on puisse réfléchir, pour plus revivre ce qu'on a vécu... Ces derniers temps.
Assez rapidement, selon vous?
Assez rapidement, bien sûr.
Xavier Benoît.
Maintenant que les municipales sont finies.
Très, très rapidement. Bon, après, la fiscalité, elle a l'intérêt, parce que c'est une question qu'il faut aussi qu'on se pose. C'est comment les collectivités calédoniennes, elles vont survivre à cette crise que l'on vit, où on a la dépense publique qui s'est envolée et qu'on n'a pas financée pour l'instant.
Très bien, monsieur. Dominique Lefebvre, vous vouliez ajouter autre chose ou par rapport
non,
à...
C'est très important ce que Xavier vient de dire. Mm-hmm. La dépense publique s'envole. Aujourd'hui, l'économie est au plus mal. Donc, comment on va faire? Et là, je crois que le gouvernement, il faut vraiment que le gouvernement se penche sur le sujet et nous fasse sortir de cette crise, prévoit une éventuelle nouvelle crise et vraiment réfléchisse à le service public, quel est le modèle demain.
Donc vous seriez prêts tous à participer à cette réflexion pour voir comment se prévenir, en tout cas prévenir une nouvelle crise sanitaire et le plan d'action qui doit être mis en place.
Oui, bien sûr.
Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On justement réfléchissait sur l'après-Covid-19. Que pourront-on faire justement pour prévenir une nouvelle situation de crise sanitaire sur le territoire? Je rappelle que j'avais avec moi autour de cette table Dominique Lefebvre, qui est président de la Commission du développement économique au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, Pierre Touetiala, qui est deuxième secrétaire général adjoint de l'USOINC, et Xavier Benoît, chef d'entreprise et aussi président du FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup à vous, messieurs, et merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour une nouvelle édition de Questions Pays, et ce sera cette fois-ci avec Cédric Wakaouniem.